raconter l'histoire du rire, ou plutôt l'histoire d'un homme. C'est un homme qui déjeune seul au restaurant au beau milieu d'une journée moyenne. Juste au-dessus de la moyenne, pour être plus précis. Le matin, il a fait ce qu'il avait à faire et il s'apprête à faire de même l'après-midi. Sans ennui, mais sans passion non plus. Logiquement, il commande une salade César. Vous savez, le plat dont on n'attend rien d'exceptionnel, mais qui ne peut pas non plus trop décevoir. Une salade César, ça résume pas mal son état et peut-être même son existence. Ni royal au bar, ni complètement dans les choux. Et comme elle n'arrive pas, sa salade César, il tire de son sac une BD et commence à la lire. Au début, il n'est pas sûr de bien voir. On dirait que la même scène est présente à l'identique dans 5 cases successives. Il est con ou quoi le dessinateur, il se fout de ma gueule ? Ah non, en fait, c'est pas exactement la même. En tout cas, ce qui a écrit dans les bulles change un peu. C'est une scène de couple. Un homme et une femme se parlent, mais leur visage ne change pas. La chute le fait hurler de rire d'un coup. Comment peut-on changer d'état si vite ? Comment quelques mots simples dans une bulle peuvent-ils avoir ce pouvoir de remplir tout son corps, toute son âme, soudain, d'une pure joie féroce ? Il tourne la page. Autre scène, autre couple. Toujours le même dessin, minimal, presque vide. En tout cas, les traits des visages ne sont pas dessinés. Autre chute, cette fois il pleure de rire, ça en devient gênant. Déjà qu'on a toujours l'air un peu con quand on déjeune seul au restaurant, mais là le voilà qui se met à renifler comme un porc en essayant de reprendre son souffle, tant il rigole. Le haut de sa poitrine est tout entier secoué, il commence à angoisser. Va-t-il pouvoir s'arrêter de rire ? Il a du mal à respirer. Les gens se tournent vers lui, il les distingue mal à cause des larmes dans ses yeux, mais ils sont bienveillants en fait, ils ont juste envie de savoir ce qui est si drôle. Mais lui, il a peur. Il a peur de tourner la page et de se pisser dessus à la prochaine scénette. Mais il y va quand même. Il prend son courage à deux mains et c'en est trop pour lui. Encore un couple confronté à son vide et une chute d'une insensée férocité. Comment décrire son cri quand son rire s'intensifie seul au milieu du restaurant, entre le cri de mouette et celui de la truie, et cette impression bizarre de se sentir follement vivant au cœur de son fou rire, comme lavé, purgé, soudain plus fort que l'absurdité même de nos vies, soudain capable de la regarder en face, mais toute floutée à cause des larmes dans ses yeux, des larmes de rire. À la fin du repas, il a tellement ri qu'il est crevé comme après un match de foot. Il se lève et ça lui prend comme un coup de tête, comme ça, une envie de générosité, de partager. Il se lève et il offre la BD aux inconnus de la table d'à côté. Il leur offre cette BD de Fab Caro. Il leur offre moins qu'hier, plus que demain. Pour en parler ce matin, des pouvoirs du rire et de la magie du dessin, de ce trait à peine esquissé capable de tout dire, j'ai la joie justement de recevoir Fab Caro. Fab Caro, le dessinateur, qui est aussi Fabrice Caro, le romancier, et qui nous a rejoint sous le soleil de Platon pour nous aider à réfléchir à cette étrange proximité du rire et du réfléchir.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Fab Caro, bonjour.
Bonjour.
Enfin, ou Fabrice Caro, bonjour.
Bonjour aussi.
Toujours bonjour. Vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Bah ouais, je suis trop content de vous recevoir. J'ai pleuré de rire toute la nuit en révisant. Et je voudrais qu'on commence par parler d'une spécificité de votre dessin. Presque une invention. C'est cette manière de répéter dans des cases qui se suivent, en fait, le même dessin. À peu de choses près, parce qu'on va voir que c'est un peu plus nuancé. En faisant juste varier ce qu'il y a à l'intérieur des bulles. Alors, c'était quoi l'idée ?
Alors déjà, c'est pas une invention. Je sais pas moi qui ai inventé ça. Beaucoup l'ont fait avant moi. Ben déjà, Trondheim, dans une toute première BD qu'il avait fait, qui s'appelait Le Dormeur, je crois qu'il avait fait ça, répétition d'une case. Lui, c'était exactement la même case. Je crois que c'est un procédé assez cinématographique, en fait. Moi, dans les films, j'aime bien les plans séquences. Je trouve que c'est hyper efficace. Et paradoxalement, c'est hyper efficace dans l'humour aussi. Enfin, je trouve que dans l'humour, ouais, moins la scène bouge, plus on est fixé sur le texte. Et là, c'était l'idée, c'était de faire un plan séquence, que l'image parasite pas trop le texte. Alors, je mets un point d'honneur à redessiner, malgré tout, pour montrer que je suis pas quand même pas si feignant.
Mais ah non, oui, c'est vrai, je me suis posé la question.
Oui, parce que des fois, je vois pas, il fait un copier-coller. Non, je redessine chaque fois. Mais c'est aussi pour avoir il y a une espèce de vibration. L'œil le perçoit malgré tout. Que
exact.
C'est pas...
ouais. Mais alors, d'abord, on parle souvent d'un comique de répétition. Vous dites que vous ne l'avez pas inventé. Je crois que c'est le mouvement de Loulibar, c'est ça, qui avait conceptualisé cette répétition. Un mouvement inspiré de Loulipo en littérature et qui est en BD, c'est ça ?
Oui.
C'était quoi leur idée ?
C'était jouer avec le code de la BD, jouer avec la forme, de la même manière que que jouer avec les, voilà, faire des palindromes en BD, ouais. Voilà, jouer avec la forme comme ça. Et ça faisait partie de contraintes, de prendre une case. Ouais. Et décliner comme ça, une BD a toujours la même case.
Et alors, vous l'avez quand même pas mal systématisé, je dirais.
Ouais, un petit peu trop même.
Oui, vous trouvez?
Ouais. Oui, il faudrait que je m'écarte un petit peu. Mais...
Ça dépend des bandes dessinées. Par exemple, dans Moins qu'hier, plus que demain, que j'évoquais, non seulement il y a beaucoup de cases qui se répètent, mais en plus, on retrouve les mêmes scènes au début et à la fin. Donc il y a vraiment quelque chose qui marche hyper bien. Et... notamment, à ceci s'ajoute le fait que très souvent, vous ne dessinez pas l'intérieur du visage. C'est fait pour nous dire quoi ?
C'est pour pas être... Alors, déjà, c'est des silhouettes. Je voulais pas que l'humour soit redondant, c'est-à-dire que le texte et le dessin soient redondants. Si on fait un texte absurde, avec un visage trop expressif, enfin, on impose trop au lecteur, je trouve. Moi, je fais des visages assez vides, pour ouais. que le lecteur puisse y mettre ce qu'il veut dedans. Si la personne exprime ce qu'il dit, ça cloisonne trop ça donne trop au lecteur. Moi, j'aime bien l'idée de faire des silhouettes, que ce soit dans le trait ou dans l'expression, et le lecteur met ce qu'il veut dedans.
Donc, c'est pour laisser plus de liberté au lecteur.
Ouais, c'est ça.
Mais
ouais.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée, quand même, de souligner une incommunicabilité entre, alors là, ça dépend des bandes dessinées. Dans celle-là, Moins qu'hier, plus que demain, c'est sur le couple, hein.
Oui.
Et sur l'absurdité, aussi parfois l'usure, la non-compréhension. Est-ce que le fait de ne pas dessiner les expressions des visages est fait pour souligner l'incompréhension au sein des gens qui vivent ensemble?
Ah, oui, c'est possible aussi. Ouais, ils expriment rien finalement. Enfin, ils expriment rien de par leur attitude, de par leur physique. Ouais, c'est des scènes assez figées finalement. C'est pas très dynamique. Donc c'est assez froid comme ça. Donc ouais, il y a cette idée là aussi.
Alors
ouais.
je vais faire quelque chose de très difficile à la radio. Je vais essayer de décrire une scène, enfin une planche qui m'a fait pleurer de rire.
Ah, bon courage, parce que c'est pas évident la BD.
Donc j'essaie d'expliquer. Il y a donc ça s'appelle Emeline et Philippe. C'est dans Moins qu'hier, plus que demain. Et il y a donc 6 cases qui se succèdent. En fait, les 6, le dessin est le même. C'est deux femmes qui discutent au café. Et la première dit et avec Philippe ça va. Et la seconde répond. Et à chaque fois on change de case au fur et à mesure, mais le dessin est le même. Même si on a compris que vous l'avez redessiné, et c'est très important. On va en parler après. Oui, super. J'ai trouvé quelqu'un d'enveloppant, de rassurant. Elle enchaîne dans la case d'après, mais c'est la même. On partage beaucoup de choses. On lit, on va au ciné, on adore marcher dans la forêt, main dans la main. On change de case, c'est toujours la même qui parle. On fait la cuisine ensemble, on écoute la radio, c'est une relation très tendre, très complice. On change de case, c'est toujours la même qui parle. Et toi, avec Bruno, ça va? Et là, case finale, c'est l'autre qui répond, c'est l'autre qui réplique. Oui, nous aussi, on s'emmerde. Mais alors, il y a presque une rage, il y a presque une férocité. Vous avez l'air sympa, vous ressemblez à un rocker, vous avez une boucle d'oreille, vous avez un t-shirt avec plein de colliers, vous êtes mal rasé, vous avez 50 bracelets, vous avez un sweat d'ado. Mais c'est méchant quand même.
Ah, vous trouvez?
Oui.
Alors, j'essaie toujours qu'il y ait de la bienveillance dans ce que je fais. Enfin, j'espère que c'est pas moqueur. Alors oui, il y a un petit côté... alors méchant, je sais pas si c'est le mot, mais il y a un petit côté un petit peu incisif, j'espère, sinon ce serait un petit peu fade.
Non, c'est plus qu'incisif.
C'est plus qu'incisif, ouais.
C'est féroce, parfois c'est de l'humour noir quand même.
Ouais, mais ouais, j'espère qu'il y a un fond, mais qui insiste. Non, qu'il y a un fond de bienveillance malgré tout.
Non, mais évidemment, il y a de la tendresse, mais souvent la chute est quand même ouais. féroce.
Oui, c'est vrai. Mais c'est une façon, peut-être d'exorciser. Parce que moi dans la vie je suis plutôt un gentil, ouais. je contredis jamais les gens, donc c'est peut-être c'est ma psy à moi, c'est peut-être une façon pour moi d'exorciser tout ce qui m'insupporte dans la vie. Donc ouais, comme vous dites, peut-être on a tous un petit côté féroce et rageux, et peut-être que moi il sort par là. Ouais.
Vous pensez que ce que vous faites là, c'est quoi? C'est de la satire? C'est quoi? C'est du... une parodie, vous appelleriez ça comment?
Alors ça dépend des projets, mais ouais, la satire ça me va, ou des instantanés de la vie. Enfin, c'est un petit peu vague comme définition, mais c'est ça, c'est les instantanés. Alors moi je pousse toujours un petit peu le curseur de l'absurde.
Oui, c'est ça.
Quoique des fois il n'y a pas beaucoup à le pousser, je trouve, parce que la vie est assez absurde. Des fois j'ai pas beaucoup à transformer les choses.
Vous avez été influencé visiblement par le nonsense britannique, par exemple d'un Glenn Baxter, j'imagine.
Ouais.
On sent ça, ouais.
Oui, oui.
Quelque chose d'anglais, mélangé, un truc très français, quoi.
Ouais, alors Glenn Baxter, souvent on me dit ça me fait penser au Monty Python ou Glenn Baxter, mais moi j'ai découvert ça plus tard. Je crois que les toutes premières influences, ça a été plutôt Quand j'étais ado, moi, je suis issu de l'école Gottlieb. Ouais. Donc, c'était Gottlieb, Edicace, ce genre de choses. Mais oui, après, un petit peu plus tard, les Monty Python, toute l'école anglaise, Glenn Baxter, oui.
Alors, la scène que j'ai racontée au début, là, pour vous accueillir, en fait, c'est une scène que m'a raconté un ami, le dessinateur Jules, que vous devez connaître.
Oui.
C'est lui qui a vécu cette scène, en fait. Il était en train de vous lire seul au restaurant, et il pleurait de rire, il pleurait de rire, et puis finalement, il était gêné, donc il a offert cette bande dessinée aux voisins, quoi.
D'accord.
Et est-ce que ça doit vous arriver de rencontrer des gens qui sont en train de lire votre BD et qui rient tout seul?
Alors, ça m'est jamais arrivé.
Ah, c'est marrant.
Non, ça m'est
jamais arrivé. Quand on voit le nombre de gens qui vous lisent,
Ouais, non, ça m'est jamais arrivé. Par contre, en dédicace, les gens me disent souvent merci, à cause de vous, je me suis payé une honte dans le métro.
Voilà,
je suis en train de lire un livre, et puis j'éclate de rire et tout le monde me regarde. Souvent, on me rapporte ce truc-là, mais moi, j'ai jamais assisté à ça en direct.
C'est dommage.
J'aimerais bien voir ça. En même temps, ça doit être assez gênant de voir quelqu'un qui lit votre livre comme ça.
Mais c'est-à-dire que le rire, c'est quand même, ça fait beaucoup de bien, quand même.
Ouais.
Le rire, c'est, comment vous expliquez que le rire comme ça nous, au fond, nous réconcilie avec l'existence, presque en secouant notre corps, nous aide spirituellement à accepter l'adversité de la vie. Comment vous l'expliquez?
Pour moi, c'est le seul moyen de survie, cette histoire, le rire. Enfin, l'humour, le rire, c'est le seul moyen. On est dans un... Ouais, puis ça passe pas par le cerveau, c'est un truc, ça sort comme ça, c'est malgré nous, ça sort malgré nous. Ouais.
Sous le soleil de Platon.
S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, on peut rire de tout, on doit rire de tout, de la guerre, de la misère et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, la mort, elle, pour se rire de nous? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort?
Charles Pépin, sur France Inter.
J'imagine que vous avez reconnu Pierre Desproges.
Oui.
C'est sur fond comme ça de... C'est pas simplement que l'existence est absurde, c'est aussi qu'elle s'arrête. C'est peut-être pour ça qu'il faut rire.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Comme je disais, pour moi c'est le seul moyen de survie possible. C'est-à-dire... c'est une tragédie, cette histoire. Enfin, je dis souvent ça, mais on est là, on naît, on meurt, et au milieu, on sait qu'on va mourir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est tragique de se dire ça, que tous les gens, on va aimer des gens qui vont disparaître, puis nous, on va disparaître. Enfin, c'est inacceptable.
Mais si c'était si inacceptable, peut-être vous pourriez dessiner dans les couples qui s'aiment quelque chose de plus miraculeux dans le fait qu'existe la possibilité de l'amour entre la vie et la mort. Mais vous y allez fort. D'ailleurs, je vais lire un autre extrait. Votre manière de dire il faut se marrer avec ça, elle hésite quand même entre beaucoup de bienveillance et quand même une sorte de, je dirais quand même de rage.
Ouais, parce qu'il faut, c'est ce que disait Desproges là, faut rire de ce qui nous angoisse, faut rire de ce qui nous fait peur. La question, faut rire de... est-ce qu'on peut rire de tout? Il faut rire de tout et surtout de ce qui nous fait peur, ce qui nous angoisse, et ce qu'on veut pas voir. Ça sert à ça, le rire.
Alors justement, ce qui est particulier dans votre cas, et c'est très intéressant, c'est très rare en fait, c'est que en ce moment, parce qu'on va parler aussi du passé, vous avez beaucoup de succès avec vos bandes dessinées, on connaît tous Zai 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 par exemple, mais aussi avec vos romans, notamment Le Discours ou Broadway, et récemment Le Discours est adapté au cinéma, il est en ce moment en salle. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire dans le roman que vous ne pouvez pas faire en bande dessinée, et inversement.
C'est pas la même approche, c'est pas la même écriture. Alors déjà, sur le fond, je m'autorise à être plus... en BD, moi je fais de l'humour, donc le cahier des charges, c'est le minimum syndical, c'est d'essayer de faire rire. Si mes BD font pas rire, c'est que j'ai foiré.
Ouais, je vous rassure, c'est réussi.
Oui, ça arrive que ça... Mais en tout cas, le cahier des charges, c'est faire rire. Après, dans le roman, je m'autorise... Je fais pas... L'idée, c'est pas forcément de faire rire. Là, c'est plus une envie d'écriture.
Oui.
Je m'autorise plus de sentimentalité. Enfin, j'espère que ça reste assez drôle parfois. Mais je m'autorise un champ plus large, un champ plus étendu, plus sentimental peut-être.
Oui.
Et après, dans les choses qu'on peut pas faire, moi en BD, j'utilise beaucoup le silence. Moi, j'adore les cases vides sans texte, les suspensions, oui. Les suspensions de temps, comme ça, je trouve que c'est hyper efficace en BD. En littérature, si vous laissez une page blanche, ça fait erreur d'imprimeur. Enfin, ça fait bizarre. Ouais, ouais. Mais les codes sont pas les mêmes, les approches sont pas les mêmes. Et j'ai besoin des deux, je crois, d'alterner les deux.
C'est vrai que dans votre roman, Le Discours, notamment, vous touchez des moments d'émotion sur un mode effectivement plus mineur, plus, je dirais presque plus délicat, plus littéraire en fait. Et pour que tout le monde en profite, je vais lire un extrait du discours donc de Fabrice Caro. Au tout début de notre passion, Sonia m'appelait mon cœur d'amour. Et je trouvais cette appellation aussi incongrue que bouleversante. Bouleversante parce qu'incongrue, parce que n'appartenant qu'à elle. Et puis un jour, on est passé à mon cœur, et c'était encore beau, mon cœur. C'est magnifique. Et puis un jour, ce fut mon Adrien. Et ça restait tendre, même si le cœur avait disparu on ne sait où. Il subsistait le mont, ce signe d'appartenance, ce lien indéfectible tendu entre nous jusqu'à la fin des temps. Et puis un jour, ce fut Adrien. Sans mont, sans cœur, sans rien, sec, à l'os. Presque une immatriculation. Et la sonorité d'Adrien venait renforcer sur rien. Ad-rien. Vers rien. Et on comprend à ce moment-là qu'on est au dernier chapitre. Et ça sent le radeau à plein nez. La descente du mon cœur d'amour à Adrien est une piste noire verglacée qu'on descend sur les fesses, sans pouvoir rien faire d'autre qu'attendre d'être en bas, passif et résigné. Voilà, on a arrêté de rire là.
Ouais. Ça, c'est des choses que je m'autorise en roman et pas en BD. Parce qu'en BD, ça s'y prête pas. Enfin, moi, en tout cas, en BD, j'ai envie de choses plus fragmentées, plus efficaces, qui soient vraiment de l'humour pur, de l'absurde. Voilà. Et le roman, c'est vrai que je me laisse glisser vers des choses un petit peu plus sentimentales, on va dire.
Et bien, justement, je vous propose d'écouter After Laughter, c'est-à-dire Après le rire, de Wendy René. C'était Wendy René et ça tombait à point, After Laughter comme Tears.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Fab Caro, l'auteur de Zai Zai Zai, évidemment, en bande dessinée, mais aussi avec Fabrice Caro, c'est la même personne, l'auteur du discours. Je venais de lire un extrait très émouvant de votre roman. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'adaptation au cinéma, donc qui est en ce moment sur les écrans?
Ah, je l'ai trouvé super. Et surtout émouvante. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu drôle, enfin que les passages drôles restent drôles. Mais surtout, j'ai été ému. Je m'attendais pas à être aussi ému. Il y a deux trois passages qui m'ont tiré des larmes.
Ouais, lesquels, par exemple?
Oh, faut pas trop que je spoil non plus, mais la scène finale, moi j'ai trouvé super réussie.
Oui, d'ailleurs c'est une scène finale, bon j'explique un peu l'histoire pour tout le monde, c'est quelqu'un qui doit écrire un discours pour le mariage de sa sœur, et il a pas du tout envie de faire un discours, d'abord il est sur une autre longueur d'onde que sa sœur et son futur mari, et puis tout le livre comme ça, c'est comment il imagine des scénarios pour ne pas le faire, mais je crois qu'à la fin du livre, d'après mon souvenir, il n'y a pas le mariage. Ouais. En revanche, dans le film, le mariage a lieu.
Ouais,
c'est la différence.
Oui, oui, oui. Sa fin est plus réussie à Laurent Tirard que la mienne. Enfin, la mienne est un petit peu en suspens. Lui, il est allé jusqu'au bout du truc.
Ouais.
Et c'est pas évident. Faut pas se louper sur une fin. Et lui, je trouve qu'il a super réussi sa fin.
Ouais, c'est vrai. C'est très émouvant. On va pas la spoiler.
Non, on va pas. Voilà, on va pas la spoiler.
Mais ce qui est très, très, très intéressant, je trouve, c'est sur la question de la créativité. C'est-à-dire, c'est très, très rare de réussir à changer de champ, en tout cas en France, et d'avoir du succès dans les deux champs. Les Français aiment bien les cases, à vrai dire.
Ouais.
Donc voilà, si vous faites un essai, on vous attend pas en roman. Si vous faites une bande dessinée, on vous attend pas en roman, etc. Et vous avez réussi à faire ça, et de surcroît, à rencontrer beaucoup, beaucoup de succès dans les deux champs, alors que pendant longtemps, vous avez eu assez peu de succès. Comment vous vivez cette espèce de changement?
Oh, je reste assez... justement, je suis resté tellement de temps sans avoir de succès, sans que personne me connaisse, que je m'y suis habitué.
Ouais.
Et que finalement, oh, ça change pas grand-chose. Après, si ce n'est que j'ai beaucoup plus de sollicitations qu'avant, ça c'est sûr. Mais après, j'essaie de rester... justement, pour pas que ça nuise à la créativité, il faut rester un petit peu loin de tout ça. Surtout pas sentir d'attente, surtout pas... Essayer surtout pas être dans la séduction, pas se dire... Oh, il faut que je fasse un projet. Il faut que ça plaise. Si on part du principe qu'il va falloir plaire à du monde, on se vautre.
Enfin, mais de fait, maintenant vous êtes attendu. C'est comme ça. Alors tout le monde attend le prochain Fab Caro.
Ouais.
Donc du coup, ça doit impacter votre travail de fait.
J'essaie que non. Justement, je crois que le gros du travail, c'est ça. C'est se dire, faut rester comme avant. Avant, j'avais trois lecteurs.
Ouais.
Donc je restais libre.
Trois lecteurs sympas.
Pardon ?
Trois lecteurs sympas.
Ouais. Donc l'idée, c'était super parce que j'étais libre. Et paradoxalement, plus on a de lecteurs, plus on perd en liberté, en fait. Et l'idée, c'est tout ce qui m'importe, c'est de garder la liberté.
Ouais.
Moi, le reste, je m'en fiche un petit peu. C'est pas vrai. Mais l'idée, c'est quand même de faire ce qu'on veut, de garder toute sa liberté. Donc c'est de s'affranchir du lecteur, de se dire, bon, il y a peut-être un petit peu plus de gens qui me lisent, mais je vais pas en tenir compte. J'ai envie de moi m'amuser, faire ce qui me plaît, continuer à faire ce qui me plaît.
Vous avez commencé par être chanteur dans un groupe alternatif.
C'est beaucoup dire.
Bah un peu quand même.
Oui,
vous vouliez en faire votre métier quand même à un moment.
À une époque, quand j'étais ado, à l'époque de la fac, j'adorais la musique. J'aimais beaucoup la musique. J'ai de la guitare. Et j'hésitais entre la musique et l'écriture, mais je me suis aperçu très vite que j'étais pas fait pour la musique. Je suis beaucoup trop timide. Il fallait faire des concerts, moi je supportais pas les concerts, donc c'est un petit peu mal barré pour faire de la musique.
Ouais.
Donc non.
Très vous vite. Aviez peur d'être sur scène devant les gens ?
Ouais. Ah oui, moi je suis hyper émotif, hyper timide. Ouais. Et pour ça l'écriture c'est super, c'est un boulot d'ours.
Mais ce que je voulais dire c'est qu'il y avait, c'était un peu on va dire un monde de rock alternatif,
ouais.
Un peu punk. Du coup dans ce monde-là on n'aime pas trop la popularité, on s'en méfie beaucoup.
Ouais.
Et aujourd'hui elle vous est tombée dessus.
Ouais, je crois que j'ai gardé ce, j'ai gardé ce petit côté punk, pas du tout, qui se la joue punk. Non, mais par contre, j'ai gardé cette méfiance vis-à-vis de, pas méfiance, le mot est fort, mais cette distance vis-à-vis de la popularité, des retours. Voilà,
cette sagesse, cette lucidité.
Ouais, c'est pas un truc qui me, je reste assez distant par rapport à ça. Ouais.
Vous vous souvenez du poème de Rudyard Kipling, Si c'est un homme?
Ouais.
En anglais, c'est if, et il dit, si tu sais accueillir l'échec et le succès, ces deux menteurs d'un même front, tu seras un homme, mon fils. Ça veut dire qu'au fond, l'échec nous ment s'il nous dit que nous sommes un loser, le succès nous ment s'il nous dit que nous sommes un winner. En revanche, c'est quand même des indices à interpréter. Je veux dire, sans essentialiser l'échec et le succès, c'est quand même intéressant ce que le monde nous renvoie. Finalement, quand vous regardez votre parcours, ça vous inspire quoi de vous dire, pendant longtemps, j'ai fait des choses qui ressemblent à ce que je fais maintenant, et puis j'ai pas eu beaucoup de succès, mais j'avais des belles petites rencontres, et puis soudain, je rencontre plein de gens. Ça vous inspire quoi?
Oh, je crois que c'est beaucoup de la chance, je trouve, moi. Moi, je crois pas au mérite, ou au talent, ou à quoi que ce soit. Moi, je crois beaucoup à la chance. Et c'est vrai que j'ai dû m'améliorer avec le temps un petit peu, mais j'ai toujours fait à peu près toujours pareil. Et
ouais.
D'un coup, il y a ce truc qui bascule, à partir de Zaïzaï, on sait pas pourquoi. Et ça fait boule de neige. Plus on est connu, comme ça.
Ouais.
Mais moi, c'est un truc que je saurais pas expliquer. Et j'ai beaucoup d'affection pour mes années d'échec, justement. Moi, j'adore ça.
Et papa, il mange pas avec nous?
Non, je crois qu'il est en cavale. Il est poursuivi par la police.
Ah, ok.
lecture vivante effectuée par Nicolas et Bruno.
Vous êtes dans l'hippocagne ?
Ne cherchez pas à gagner du temps en disant des mots qui n'existent pas. On connaît le coup.
Zai, 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 zai. Zai, 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 zai.
Tu n'as pas ta carte du magasin.
Mais toi aussi, tu rêves à demain.
C'est pas Ranu, c'est le type de la télé, l'ennemi public numéro un.
Quoi? Ok Ranu, vous êtes viré.
Non mais je suis pas Ranu, je suis Caro.
Vous êtes licencié sur le champ, Caro, vous débadgez. Attrapez-le. Il va entacher la réputation commerciale de la COGIP.
Solitude de la campagne.
Comment en est-on arrivé là?
Je ne sais pas exactement. Je ne suis qu'un petit lapin.
Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, zai, zai.
Alors voilà, Fab Caro, c'était une adaptation au théâtre par Nicolas et Bruno, au théâtre des images de votre bande dessinée à énorme succès, Zai Zai Zai. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Est-ce que c'est les adaptations au théâtre, comme là, Zai Zai Zai, ou au cinéma, comme Le Discours?
Tout me touche, chaque fois c'est assez touchant. C'est bizarre de voir qu'un truc qu'on a écrit dans son coin, comme ça, ça prend un chemin, on pose le livre, puis ça prend un chemin, ça revêt d'autres formes. Ouais, c'est toujours hyper émouvant, mais les deux me plaisent, tout me plaît. Nico et Bruno, et c'est marrant parce qu'on est dans une position un petit peu délicate. Que ce soit Nico et Bruno, je suis allé voir le spectacle au Forum des Images, la première, et c'était hyper drôle, j'arrêtais pas de rire. Et des fois, j'avais une espèce de recul, je me disais, mais attends, t'es en train de rire d'un truc que tu as écrit, c'est horrible. Ouais. Mais en fait, non, c'est ce qu'ils en ont fait qui est hyper drôle.
Est-ce qu'il y avait des moments où vous oubliez que c'était vous l'auteur à l'origine?
Ouais. Je crois que c'est pour ça que je riais d'ailleurs, parce que moi mon texte je le connais par cœur. Moi je me fais pas rire de manière générale, mais ça devient autre chose. C'est tout l'intérêt de l'adaptation, ça devient autre chose. Et c'est hilarant.
J'ai l'impression que au théâtre la forme est proche de la BD. C'est-à-dire que c'est comme des cases un peu, ce qu'on voit à les scènes, alors qu'au cinéma il y a pas ça.
Ouais, au cinéma on est obligé d'adapter les codes. Zai Zai a été adapté aussi au cinéma, et je me disais mais comment est-ce qu'il va faire pour faut tout réadapter en fait. C'est pas le même langage, c'est pas les mêmes codes.
Alors Le Discours, comme aussi Broadway, sont des romans drôles. En fait, c'est très rare, je trouve, les bons romans qui sont très drôles. Est-ce que dans votre panthéon, il y a des romans drôles qui vous ont un peu guidé dans l'écriture de vos propres romans drôles?
Vous avez raison, c'est rare de trouver des romans drôles.
Très rare.
Ouais. Alors moi, les gens qui me font rire en roman, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Moi, j'adore Brotigan. Alors c'est pas ouvertement drôle, mais si, moi je trouve ça drôle. Si, il y a Philippe Génada qui est très très drôle.
Justement, je voulais arriver à ça. Néfertiti dans un champ de canne à sucre.
Ouais.
Je crois que j'ai jamais autant ri de ma vie en lisant un livre.
Oui, ça fait partie. Ouais. Philippe Génada, ça fait partie des rares qui font des romans drôles.
Ouais. Ouais. Je pensais aussi à Serge Joncourt. Je sais pas si vous avez lu L'Idole.
Ah, L'Idole, j'ai pas lu. J'en ai lu d'autres. L'Idole, j'ai pas lu.
Non. Serge Joncourt n'est pas toujours sur le terrain comique, mais c'est une recommandation que je voudrais proposer aux auditeurs pour cet été. J'avais sélectionné trois romans très très drôles en plus des vôtres. Donc, Néfertiti dans un champ de canne à sucre de Philippe Génada. Et L'Idole de Serge Joncourt, c'est l'histoire d'un homme qui se réveille un matin hyper célèbre et il sait pas pourquoi. Et pendant 300 pages, ça tient la note, ça a été adapté au cinéma.
Ah, avec Cadmirade.
Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est un film de Guillaume Canet, je crois, avec Cadmirade. Et donc, c'est une satire de la société de la fame, comme disent les ados, de la popularité. Et c'est très, très drôle. Et puis surtout, il y a aussi un autre livre que je voulais vous recommander et que je vous offrirai. C'est Pourtant, j'ai eu un ours en peluche de Jacques Gaillard.
Ah, je connais pas.
Très, très bon aussi. Il y a quelque chose qui ressemble un peu à votre travail. C'est-à-dire que c'est émouvant, délicat, et puis soudain, comme ça, on pleure de rire.
D'accord, je connais pas.
Je vais vous lire un autre extrait de votre livre pour que tout le monde comprenne qu'on peut rire, mais aussi en même temps réfléchir et être touché. Et donc on est dans Le Discours. Tout à l'heure, Ludo et Sophie vont s'élancer sur la piste sur « I Will Always Love You » de Whitney Houston, et vous allez les regarder avec un sourire attendri. Mais peu à peu, ce sourire va se figer. Votre regard va se voiler et partir loin, très loin, et durant les 4 minutes 35 que dure la chanson, vous allez feuilleter l'album de votre vie. Et, comme l'oncle à la chemise ouverte, vous vous direz que le temps a passé à une vitesse folle et que finalement vous n'en avez pas fait grand-chose. Et vous vous demanderez où sont passées toutes ces ambitions que vous nourrissiez à une époque pas si lointaine. Et vous regarderez votre conjoint, Car oui, mesdames, c'est surtout vous qui éprouverez cette sensation. Vous regarderez votre conjoint et vous ne pourrez vous empêcher de penser qu'il n'y est pas pour rien, que les choses auraient pu être différentes et vous lui en voudrez un peu. Et en même temps, vous éprouverez pour lui une infinie tendresse en le voyant là, son sourire suspendu et son regard éteint par le vin, posé sur les danseurs. Et vous vous adresserez mentalement à lui. Vous lui direz « Pierre, tu n'es pas une mauvaise personne. Après tout, il faut se contenter de peu. On n'est pas malheureux. Hein, mon Pierrot, qu'on n'est pas malheureux ?» Alors, quand vous vous autorisez comme ça à être moins drôle, parce que c'est ça en fait,
ouais, ouais.
Est-ce que vous pensez que le rire est une, au fond, une protection quand même? Le rire est une presque une carapace qui nous rend fort, parce qu'on se dit qu'on est plus fort que ce dont on rit, et que du coup parfois il faut aussi cesser de rire pour toucher le nerf tendre de la vie.
Ouais, bah ouais, faut les deux. Moi je fais essentiellement de l'humour. Mais j'ai toujours eu ce fantasme de faire un roman pas du tout drôle, sous pseudo. Parce que, comme on parlait d'étiquette tout à l'heure, je crois que si je faisais un roman pas du tout drôle avec mon nom, ce serait un gros fiasco, une grosse déception. Mais j'ai toujours eu ce fantasme d'essayer de faire un laisser aller, pour le coup, du début à la fin, quelque chose de plus sentimental comme ça.
Il y a quand même, dans vos bandes dessinées, dans vos romans, pas beaucoup de gens heureux.
Ah, c'est vrai. Ah, c'est possible.
Vous avez l'air surpris.
Je n'analyse jamais trop. Moi, ce que je... on dit souvent les gens heureux n'ont pas d'histoire. Je crois que c'est ça, quoi. Je verrais pas, d'un point de vue narratif, en tout cas, je verrais pas l'intérêt de raconter une histoire avec une famille où tout va bien. Encore, une famille où tout va bien, ça n'existe pas. Mais d'un point de vue narratif, c'est... L'échec, les failles, les ratés sont beaucoup plus intéressants que les gens qui réussissent.
Et vous préféreriez, je parle pas simplement de votre dessin, mais de votre vie, rater d'une manière qui vous ressemble ou réussir comme tout le monde?
J'adore cette question. Rater à ma façon, je trouve ça beau, je trouve ça élégant. On rate, mais on reste soi. Ouais, j'aime bien cette idée. Ouais.
D'ailleurs, c'est peut-être une manière aussi de réussir à sa façon.
Ouais. Puis moi, tout ça, c'est encore une fois, c'est très relatif, l'échec, le succès. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir, même à l'époque où je vendais 3 livres, pour moi, c'était pas un échec, ça faisait partie du... c'est la vie, quoi. C'est très bizarre, cette histoire d'échec et de succès. C'est très relatif, finalement, ça dépend de tout ce qu'on met derrière.
Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, non?
Ouais, moi j'aime bien, ouais.
C'est une phrase de Churchill. Vous avez dit tout à l'heure, les gens heureux n'ont pas d'histoire. En fait, cette phrase, elle vient du philosophe allemand Hegel, qui a écrit « Les peuples heureux n'ont pas d'histoire ». Pour montrer qu'en fait, dans l'histoire de l'humanité, c'était toujours des peuples inquiets, des peuples en décalage par rapport à leur présent, qui faisaient avancer l'histoire, finalement. Il y a un peu ça dans votre travail, c'est-à-dire qu'on voit bien que s'il n'y avait pas quelque chose qui ne va pas, au fond, s'il n'y avait pas quelque chose qui fâche, qui blesse, au fond, il n'y aurait pas non plus le sourire de la vie, quoi.
Ouais. Moi, j'aime bien... les névroses, c'est un moteur, c'est un super moteur. Moi, je trouve faut pas s'en guérir, faut pas essayer de se... Enfin, si, on se soigne comme on peut. Moi, je me soigne par l'écriture, mais je trouve que c'est un super moteur de pas être bien, d'être déséquilibré, de pas se sentir à sa place, de sentir que ça foire. C'est ça, c'est un super moteur, je trouve.
Cassé, il n'y a plus qu'à fixer. Calcutta jusqu'à Panama City. Féliciter tout ce qu'on peut se souhaiter. Sagacité, nos cerveaux sont armés. Nos cerveaux. Défi simplement relevé, manche retroussée, tout pour y arriver. La vie est belle, mais c'est pas du gâteau. Et ce gâteau fait pour être partagé.
C'était Fixi, la vie est belle.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Fab Caro et nous demandons si les gens heureux peuvent avoir une histoire. Alors tout à l'heure, j'étais un peu injuste quand j'ai dit il n'y a jamais de gens heureux dans vos bandes dessinées. Si, une fois, il y a une scène où ils sont heureux, c'est quand ils ont assez de points, c'est un couple pour s'acheter un appareil à raclette. Donc ça arrive quand même, il y a des bonnes nouvelles parfois.
Oui, il y a les moments de bonheur dans la vie. Oui.
Alors je voudrais lire un extrait de Zai Zai Zai, qui est le moment où le héros, anti-héros, retrouve une ex-copine du collège. On va bien comprendre le type d'humour qui est le vôtre. Mais si, tu sais, j'avais toujours... Donc c'est lui qui parle, le garçon il parle à la fille, mais maintenant ils ont une quarantaine d'années, quoi, ou 38. Mais si, tu sais, j'avais toujours un pull à col en V avec un sous-pull à col roulé qui me faisait un gros visage et un survêtement marron qui moule les cuisses avec un petit élastique qui passe sous la plante des pieds pour que ça remonte pas, alors que tout le monde avait des Adidas Challenger et toi, tu passais tes récrés à traverser la cour avec ta copine Sandrine Fréau. Vous faisiez des allers-retours, vous marchiez côte à côte lentement et vous faisiez en sorte que vos pas soient réglés au millimètre près. C'était comme un ballet et j'aurais pu passer des heures à regarder ça. Je vous trouvais super mûr de passer vos récrés à marcher lentement en discutant. Au milieu de tous ces gens qui se battaient, couraient, jouaient au foot. Et je me faisais des scénarios où tu étais en train de lui parler de moi. Tu lui disais que tu pouvais pas me regarder parce que sinon tout le monde allait comprendre que tu étais amoureuse de moi. Tu voulais que ça reste un secret. Un secret entre Sandrine Fréau et toi. C'est pour ça que tu me regardais jamais. Et moi, je te répétais mentalement que si, tu peux me regarder, les autres verront rien. Tu avais une veste un peu longue, bleue genre kawaii. J'aurais pu trouver ça moche et pourtant je trouvais ça magnifique. Ça te donnait une personnalité à part, une hauteur qu'avaient pas les autres filles. Et en classe, je passais mon temps à te regarder de trois quarts arrière. C'est pour ça que le jour où Monsieur Basset m'a interrogé sur l'année du début de la Ve République, j'ai répondu un truc qui avait rien à voir. J'avais pas entendu la question parce que j'étais en train de te regarder en imaginant que tu m'embrassais derrière les sapinettes avec tes yeux qui se ferment. Et c'est fou parce que tu vois, si on me demande aujourd'hui l'année du début de la Ve République, je saurais pas répondre. C'est une date que je saurais jamais, que je pourrais jamais retenir parce qu'elle est parasitée à vie par cette image de toi en train de m'embrasser derrière les sapinettes avec tes yeux qui se ferment. Là, on change de case. Et là, cette femme, elle dit « Ah oui, mais oui, ça me revient. C'est pas toi en sport qui avait du mal à grimper à la corde et Philippe Gomez t'avait baissé le jogging et on t'avait vu l'arrêt du cul et tout le gymnase était mort de rire. » Oui, voilà. C'est dur, non?
C'est dur.
Surtout que c'est l'histoire de ce personnage sur toute la bande dessinée. Et la police le recherche parce qu'il a quitté un magasin sans avoir la carte de fidélité. Et on s'aperçoit à la fin, au début j'avais pas compris, que c'est comme s'il avait fait une connerie. Et on voit la page d'un journal, une amie d'enfance témoigne, on lui voyait la raie du cul. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui reste de lui, quoi.
Ouais, c'est pas très glorieux, mais souvent il reste de nous, dans les souvenirs des gens, il reste de nous. Les gens retiennent des choses pas très très glorieuses, forcément, ouais.
Vous pensez qu'avec le temps, des mauvais souvenirs peuvent devenir des bons souvenirs ?
Ouais. Woody Allen disait, je veux pas déformer les... La comédie, c'est la tragédie plus le temps. Moi, j'adore cette idée. J'adore cette idée que si on laisse passer du temps, tout ce qui est pas très joli peut le devenir. Soit qu'on le transforme, soit qu'on le filtre un petit peu et qu'on retient ce qui est bien. Mais moi, j'ai tendance à retenir que le positif, en général, oui.
Le temps peut changer une humiliation en nostalgie ?
Ouais. Moi, ça m'arrive assez... Enfin, en tout cas, des moments qui sont horribles sur le moment qu'on préfère être ailleurs que... 20 ans après, on arrive à en rire. Enfin, ça, c'est la phrase classique. Dès qu'une, pour relativiser, on dit on en rira dans 10 ans.
Ouais.
Ce qui peut être assez dangereuse comme phrase, parce que du coup, on accepte à peu près tout. Mais je crois qu'on peut, avec du recul, on peut rire de situations les plus... Pas les plus tragiques, mais enfin, les plus... Peut-être des situations un petit peu humiliantes ou...
Si on regarde justement ce temps qui a passé et qu'on s'intéresse à votre manière de dessiner, j'ai l'impression que au début vous dessiniez, on va dire, plus technique,
oui.
Plus précis, plus presque plus figuratif, j'ai envie de dire.
Mm-hmm.
Donc laissant moins de liberté au lecteur. Et puis au fur et à mesure, c'est comme si vous aviez presque décidé de moins dessiner.
Ouais. Encore que ça dépend des projets. J'alterne un petit peu les styles graphiques en fonction des projets. C'est les projets qui appellent des styles graphiques différents. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai plus creusé le style graphique de Zaïzaï. Parce qu'il me semblait qu'un dessin humoristique sur un propos humoristique, c'était redondant et ça annulait un petit peu. Donc moi, je voulais faire du dessin réaliste avec un propos absurde. Je trouvais ça assez efficace.
Exactement. Mais c'est ce que vous faites, hein. Il y a une scène, par exemple, où c'est très réaliste, on a quelqu'un qui reçoit, il est tout seul sur une chaise, à l'apéro, quoi. Puis en face, il y a un couple d'amis qui viennent de prendre un verre, visiblement. Et puis, soudain, on les voit en train de faire l'amour dans différentes positions du Kama Sutra. Donc, au cœur du réalisme, soudain éclot l'absurde, en fait. Du coup, j'avais une question pour vous. Quand vous recevez des amis à l'apéro, vous les imaginez tout le temps dans les positions du Kama Sutra ?
Ben oui, tout le monde fait ça, non ?
Ouais, mais c'est vrai. Moi, je fais tout le temps ça. Et j'ai souvent demandé à des gens si j'étais seul. Ils me disent, mais non, moi, je suis pas comme ça.
Oui, non, je crois que c'est le principe de l'apéro. On invite des gens pour imaginer.
Et dites-moi, par rapport à ce dessin qui se vide, notamment à ces traits du visage qui disparaissent, est-ce que c'est pas aussi une façon de parler d'un certain vide de l'époque, de le faire résonner au cœur même des visages ?
Ah, je m'étais pas posé la question, mais c'est possible. Une certaine, peut-être aussi une certaine apathie. Voilà, on encaisse, et puis on se vide un petit peu, on est un petit peu épuisé, on est un petit peu fatigué. Il y a peut-être ça qui transparaît aussi.
Voilà. On se vide par la fatigue, ou alors on s'allège aussi dans une sorte de grâce du en fait je m'en fiche, quoi, c'est pas grave.
Ouais, mais il me semble que moi, mes personnages sont plus dans le... Ils subissent plus qu'ils ne relativisent.
Ouais.
Moi, j'ai plutôt tendance, par nature, à relativiser. Mais mes personnages, j'ai l'impression, subissent beaucoup. C'est plus une forme d'apathie, comme ça.
Ouais. C'est vrai, c'est ce qui fait qu'on a envie un peu de les secouer, parfois.
Ouais. Bah, sur le discours, par exemple, j'ai eu pas mal de retours sympas, mais... J'ai quand même des retours récurrents de gens qui me disent « Mais ton Adrien, il est insupportable, on a envie de le secouer, on a envie de le prendre par le callback, comme ça, le secouer. » Et ça, c'est un truc que je peux comprendre.
Je vous propose, Fab Caro, un petit quiz.
Oui.
Alors, Fab Caro, Fabrice Caro, joie ou bonheur ?
Ah, joie ou bonheur. Moi, je crois que j'ai une grande aptitude au bonheur. Pour moi, la joie, c'est plus fugace, c'est des pics comme ça, alors que le bonheur, c'est un truc de fond. Oh, je dirais le bonheur.
Tristesse ou mélancolie ?
Oh, mélancolie. Moi, j'adore la mélancolie, alors que j'aime pas la tristesse.
Ouais, la tristesse, pourquoi ?
Ah, la tristesse, c'est dur, alors que la mélancolie, c'est agréable, je trouve. Il y a une petite nuance, ça se joue à rien. On bascule très très vite de la mélancolie à la tristesse. Mais la tristesse, c'est assez désagréable. La mélancolie, j'adore ça.
Poulet ou gigot ?
Poulet.
Le dimanche midi, c'est plutôt gigot.
Alors, pas forcément le dimanche midi, mais moi, j'aime bien le poulet. À une époque, je voulais aller vers le... Enfin, manger moins de viande. J'aime bien l'idée du végétarisme.
Ouais.
Mais j'y arrive pas parce que j'adore le poulet. Enfin, voilà, c'est bête. Mais...
Gâteau au yaourt ou tarte aux poires ?
Ah, un gâteau yaourt, c'est un petit peu sec, non, tarte aux poires.
Parce qu'il y a cette scène donc, dans le discours où en fait il n'en revient pas parce qu'au déjeuner dominical il y a tout le temps un gâteau yaourt et soudain il y a une tarte aux poires et il ne comprend pas cette rupture de ses habitudes.
Ouais, ouais, ça fait partie des rituels familiaux, les mêmes repas qui reviennent, les mêmes desserts. Ouais, je dirais tarte aux poires.
Juste mesure ou open bar?
Bah, open bar, la vie est courte, faut tout lâcher.
Essence ou existence?
Existence.
Il n'y a pas beaucoup, d'essence hein, dans ces personnages au visage comme ça, blanc.
Ouais, ouais. Mmh.
C'est quelque chose de très sartrien en fait, vos personnages comme ça qui n'ont pas de traits. C'est presque aussi une définition de la liberté. En fait, on peut s'inventer comme on veut à partir du moment où on n'est pas dessiné si fixement.
Ouais, bah c'était ça l'idée. C'était laisser le champ le plus ouvert possible et on y met ce qu'on veut. Ouais.
Tintin ou Lucky Luke?
Tintin ou Lucky Luke. Allez, je vais dire Tintin parce que ça a été la première BD que j'ai lue, donc c'est rattaché à l'enfance. Ouais.
C'était laquelle?
C'était Le Temple du Soleil. Et du coup, ça m'avait marqué, j'avais une gastro. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ma mère m'avait acheté ça, j'étais cloué au lit, j'avais une gastro, et j'ai découvert Le Temple du Soleil, et ça m'a marqué.
Peur ou angoisse?
Angoisse, parce que c'est un truc que je connais bien, moi je suis angoissé par nature, donc angoisse, c'est ma copine, je connais, donc angoisse, oui.
Joie du créateur ou plaisir de la reconnaissance?
Oh, joie du créateur, là.
Je crois qu'on a compris. Le rappeur Jules ou le dessinateur Jules?
Alors, je connais pas le rappeur Jules, je sais que ma fille écoute, on en parle beaucoup, mais je connais pas, je pourrais pas vous dire. J'aime bien Jules le dessinateur, donc je vais dire Jules le dessinateur.
Merci beaucoup Fab Caro. Dans vos contemporains, est-ce qu'il y a des dessinateurs que vous lisez beaucoup et surtout qui vous font rire?
Alors, moi j'ai du mal à rire ouvertement, je souris beaucoup, ouais. Souvent je me dis ah, c'est chouette, mais j'ai du mal, j'arrive pas à rire ouvertement, mais il y en a quelques-uns aussi, il y a Bouzard, mon copain Bouzard qui me fait beaucoup rire, il y a Gossens aussi, il y en a deux trois qui me font à rire.
Il y a aussi ce Fabrice R avec qui vous faites le duo à mourir de rire, c'est la page 2 de Spirou. Racontez-nous un peu ce projet, c'est quoi l'idée? Parce qu'en fait j'explique pour les auditeurs, la page 2 d'habitude c'est celle du sommaire, donc d'habitude c'est un passage obligé, et là le sommaire de Spirou est à pleurer de rire.
Ouais, bah c'est Spirou. À une époque, on faisait quelques pages, puis ils nous ont dit est-ce que vous voulez pas vous occuper de l'édito, de la première page. Et on savait pas trop quoi faire. Et en fait, moi j'ai fait ça sur le modèle de Gaston. Les débuts de Gaston Lagaffe, c'était le héros sans emploi, c'est-à-dire le mec qui se retrouve là, il a pas de fonction, donc il est là. Et donc l'édito, c'est un petit peu ça. On se met en scène tous les deux.
C'est les deux Fabrice.
Ouais, les deux Fabrice. Et on ne sait pas trop quoi faire avec cet édito, en fait. C'est un petit peu ça, le truc récurrent, quoi, le running gag. Ouais.
Vous pensez que la vie n'a pas de sens?
Ouais, je pense qu'elle n'a pas de sens. C'est pas plus mal. Moi, j'aime bien cette idée que la vie n'a pas de sens. Moi, je suis pas croyant. On est là, on a un segment. On est sur un segment, plus ou moins court. Et puis au milieu, faut s'amuser. Faut essayer de...
C'est Nietzsche qui disait la vraie joie est tragique, c'est la force de savoir danser au milieu des ruines du sens.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Finalement, c'est là où le punk rejoint le dessinateur, parce qu'en fait, le punk pense qu'il n'y a pas de sens, quoi. Vous avez gardé quelque chose, en fait, de cet esprit, finalement.
Ah ouais, je sais pas si c'est punk, mais oui, moi, je pense qu'il n'y a pas de sens, et j'aime bien l'idée de pas en chercher, forcément. On cherche toujours du sens. Ben, je comprends, sinon, c'est inacceptable. Donc, on cherche du sens. Moi, j'aime bien l'idée que les choses n'aient pas de sens. Et puis, on est là, on essaie de jouir, d'être heureux, de rire, d'être bienveillant. Et puis, on meurt, quoi. Et puis, pourquoi pas.
Ça n'a pas de sens au sens de signification, mais ça a quand même un sens au sens d'une direction. Ça nous conduit quand même vers la tombe.
Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est pour ça qu'il faut être heureux. Parce que, pour le coup, on connaît la fin. Donc, faut profiter, quoi.
Est-ce que vous pensez que la reconnaissance que vous obtenez, elle vient finalement dire quelque chose de votre vrai désir?
Je saurais pas dire. Je sais pas d'où ça vient. Moi, j'ai du mal à analyser pourquoi les gens aiment mon travail. Et j'aime bien l'idée de pas savoir, parce que dès qu'on a une recette ou dès qu'on a une explication, on essaie de la reproduire. Et moi, j'aime bien l'idée de pas comprendre ce qui m'arrive. J'adore ça.
Ouais, c'est la magie des grands créateurs. Au lieu de répéter une recette qui marche, de se remettre en mouvement, quoi. Ouais. C'est vrai que quelques grands créateurs ont su le faire. Je pense évidemment à Bowie. C'est assez magique de se dire que voilà, on va prendre le risque finalement d'aller explorer quelque chose de nouveau. J'ai une dernière question pour vous, Fabrice Caro. Vous êtes l'enfant de quoi?
L'enfant de quoi? Oh là là. L'enfant de beaucoup de choses. Un enfant des années 70, de la culture populaire des années 70, je dirais. Pour essayer de résumer au maximum. Bon, culture populaire des années 70. Vous avec avez... tout ce que ça charrie, ouais. Ce qui s'est passé depuis. Quoi.
Par exemple, un ou deux titres, vous avez des références?
Oh, Oh là là, le premier truc qui me vient, c'est Mike Brandt. N'importe quoi. Je sais pas pourquoi.
Vous êtes l'enfant.
J'écoute pas du tout Mike Brandt.
Vous êtes l'enfant de Mike Brandt. Ce sera le mot de la
dessus,
fin.
C'est horrible.
Si, si, pourquoi pas. Merci Fab Caro.
Merci à vous.
Enfant, Fabrice Caro, enfant de Mike Brandt et aussi de Gottlieb, on l'a entendu.
Oui.
Je vais résumer la philosophie de la vie qui est la vôtre. Une philosophie nietzschéenne, une philosophie de la tendresse et aussi de la férocité. Une philosophie du trait et du trait qui disparaît peu à peu avec le temps pour nous laisser à nous, lecteurs, la liberté. La liberté, il faut avouer, qui est surtout une liberté de pleurer et de rire, de sentir une sorte d'énergie vitale revenir au moment même où la mort s'annonce comme une évidence. La vie n'a pas de sens, vous l'avez bien dit, mais de romans en bande dessinée, vous nous montrez que ce n'est surtout pas une raison pour ne pas en rire. Fabrice Caro, merci. À l'écran, en ce moment au cinéma, l'adaptation de votre roman, Le Discours. Je vous propose d'y aller, vous allez être ému, vous allez rire et surtout, vous allez comprendre que on peut y arriver à écrire quelque chose finalement. Cette émission a été réalisée par François Audouin, avec à la technique Adèle Caglar, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée, et tellement bien préparée, par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours, sous le soleil exactement, à 10h précisément, dans la caverne de France Inter, sous le soleil de Platon.